Travailleuses, travailleurs, camarades et amis, comme l'a dit Éric, ces élections donnent aux travailleurs l'occasion de se faire entendre. Mais pour faire entendre leurs intérêts, les travailleurs ne doivent pas se laisser entraîner dans les faux débats qui agitent cette campagne, que ce soit sur les frontières de l'Europe, sur le protectionnisme ou sur l'euro. Les principaux politiciens opposent l'euro au franc pour ne pas avoir à se positionner sur le niveau des salaires. Ils opposent la France à l'Europe pour masquer la responsabilité patronale. Et ils opposent le protectionnisme à la mondialisation pour ne pas parler du capitalisme. Du front de gauche jusqu'au front national, en passant par le Parti socialiste et la droite, tous jouent à ce jeu-là. C'est une diversion. En plus de détourner les travailleurs des combats qu'ils ont à mener, ces idées distillent le poison de la division, du nationalisme, quand ce n'est pas celui de la xénophobie. Alors les travailleurs doivent rejeter ces idées néfastes et réaffirmer l'internationalisme porté depuis toujours par le mouvement ouvrier en proclamant « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Beaucoup, au premier rang desquels le Front National, nous disent que tout est de la faute de Bruxelles et qu'il faut considérer les travailleurs des autres pays d'Europe comme des concurrents, des adversaires ou des ennemis. Des adversaires, ceux qui, aux quatre coins d'Europe, subissent les mêmes licenciements, les mêmes blocages de salaires, la même démolition des services publics. Des ennemis, les mineurs de Turquie qui sont morts dans l'explosion de la mine de Soma. Des concurrents, ceux qui viennent travailler sur les chantiers de construction en France? Non, des travailleurs, comme nous tous ici, des exploités, bien forcés d'aller où ils peuvent pour gagner leur croûte. La classe ouvrière est internationale, par nature. Elle existe dans tous les pays, parce que partout où le capitalisme s'est imposé, eh bien, il a généralisé la condition d'exploiter à l'immense majorité de la population. Internationale aussi, parce que les travailleurs de tous les pays se sont mélangés depuis toujours. Marx disait « les travailleurs n'ont pas de patrie ». Et ce n'était pas qu'une façon de prendre le contre-pied du nationalisme de la bourgeoisie, c'était un constat. Le constat que dans cette société capitaliste, les travailleurs sont forcés de se déplacer, forcés d'aller vivre où ils trouvent du travail. Il est aujourd'hui beaucoup question des travailleurs détachés qui viennent de Roumanie ou de Pologne. Mais combien de paysans italiens, algériens, marocains ont été détachés de leurs champs tout au long du XXe siècle pour venir travailler dans les mines, sur les ports, dans les usines de montage? Au XIXe siècle déjà, Londres, Paris, les grands chantiers de construction de chemins de fer ou les régions minières étaient des points de rassemblement de travailleurs français, allemands, anglais, irlandais, belges, polonais. Comme aujourd'hui, la bourgeoisie a toujours cherché à profiter de la misère ouvrière pour mettre en concurrence les travailleurs, pour casser les salaires et aggraver l'exploitation. Mais les travailleurs n'en sont pas restés à se regarder en chien de faïence. Ils y ont répondu de la seule manière possible, c'est-à-dire en s'organisant et en combattant ensemble. Le mouvement ouvrier, à l'image de la classe ouvrière, a donc toujours été international. Sur les barricades de 1848, les Gavroche ont côtoyé les ouvriers italiens, allemands, suisses, belges. Le premier gouvernement ouvrier, la Commune de Paris de 1871, avait nommé à sa direction un Hongrois, Léo Frankel, et un Polonais, Dombrowski, à son commandement général. Et la première grande organisation ouvrière fut l'Association internationale des travailleurs, créée à Londres en 1864, à partir de liens existants entre les ouvriers de toute l'Europe. Karl Marx résuma son but en deux phrases : l'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, et prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et c'est sur cette base que se développèrent les premiers partis ouvriers nationaux dans les années suivantes. La conscience internationaliste a donc toujours été indissociable du mouvement ouvrier. C'est la conscience qu'au-delà de leurs différences, au-delà des nationalités et des frontières, les travailleurs ont les mêmes intérêts et forment une seule et même classe sociale. C'est la conscience que ce qui sépare les hommes, ce ne sont pas les frontières géographiques, Mais les frontières sociales, les frontières de classe qui opposent, qui divisent la société en exploités d'un côté et en exploiteurs de l'autre. C'est le rejet du nationalisme et c'est le rejet du chauvinisme. C'est la conviction que les luttes des travailleurs dans quelque pays que ce soit font avancer le sort de tous. C'est la conviction que le combat des uns est le combat de tous. Cette conscience, elle n'a jamais été innée. Elle s'est construite et elle s'est transmise au travers des organisations ouvrières, au travers de journées de lutte internationale comme le 1er mai, par exemple, au travers aussi du rejet des hymnes et des drapeaux nationaux remplacés par le drapeau rouge et par le chant de l'international. C'est peu dire que les partis de gauche actuels n'ont plus cette politique. Le Parti communiste, comme le Parti de gauche, se place, comme les politiciens bourgeois, sur le terrain du nationalisme. Qu'est-ce qui sera bon pour la France ? Qu'est-ce qui sera bon pour l'économie du pays ? Se demande-t-il. Mais autant se demander ce qui sera bon pour Bouygues, pour Peugeot, pour Bettencourt, car les intérêts de la France, ce sont toujours les intérêts de la bourgeoisie française, jamais ceux des travailleurs et des plus pauvres. Eh bien, les travailleurs conscients doivent opposer à tout ce monde-là leur point de vue de classe et leur internationalisme. Et ils doivent se demander, non pas ce qui sera bon pour la France, mais qu'est-ce qui sera bon pour les travailleurs et qu'est-ce qui sera bon pour tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité et leur origine. L'internationalisme n'est pas qu'une question de solidarité entre exploités. Ce n'est pas non plus qu'une question d'efficacité dans le combat. C'est la seule issue pour l'humanité. C'est la conviction que les travailleurs ne pourront pas s'émanciper à l'échelle d'un seul pays. Il n'y a pas de société plus folle que cette société capitaliste. Le chômage de masse, alors que des millions de travailleurs s'échinent au travail, est une aberration. Les travailleurs condamnés à des salaires et des pensions de misère, alors que des centaines de milliards sont dilapidés dans le luxe, et la spéculation montre que ce système marche sur la tête. 1 milliard de personnes sont condamnées à la sous-alimentation, alors que nous produisons de quoi nourrir 2 fois la population de la planète. Des centaines de millions d'êtres humains sont privés de l'accès à un logement digne de ce nom, à des soins convenables, à la culture, voire simplement à l'eau courante, quand d'autres s'inscrivent pour voyager sur la Lune. Alors oui, la seule issue pour l'humanité est de renverser le capitalisme et de fonder l'économie sur des bases collectives. Mais cette économie ne peut pas fonctionner autrement que sur une base mondiale. Le capitalisme est mondialisé depuis toujours et il s'est d'ailleurs développé à partir du commerce international. Le commerce avec l'Afrique, avec l'Asie, le Moyen-Orient, le commerce triangulaire et la traite esclavagiste au XVIIe et XVIIIe siècle ont été à la base de la révolution industrielle. C'est la bourgeoisie montante qui a réalisé la première mondialisation et qui a ainsi étendu ses méfaits, l'exploitation, les rapines, le pillage et les massacres à la planète entière. Depuis lors, les échanges internationaux n'ont fait que s'intensifier. Les capitaux se sont mêlés, les travailleurs aussi. Et le marché est devenu mondial. Les agriculteurs se fournissent et vendent sur le marché mondial. La moindre usine travaille pour ou avec des entreprises étrangères. Et comme l'a illustré Eric avec Toyota, eh bien pour être fabriqué, le moindre produit nécessite une chaîne d'échanges internationaux. Et bien malin, celui qui voudrait consommer 100% français. Un journaliste s'y est frotté en essayant de vivre pendant 1 an Made in France. Il s'est débarrassé de 95% de son mobilier et de ses appareils électriques. Il a remplacé le café et le thé, évidemment, par la chicorée et le jus de pomme. Et grand déchirement, paraît-il, il a dû se passer de ses jeans, de son réfrigérateur et de son coupe-ongle. Et s'il avait cherché de quel acier était fait son opinel, il aurait dû aussi s'en séparer, car l'acier inoxydable est suédois. Quant à sa mobilette, elle ne roulait sûrement pas au vin rouge. Et il n'a pas non plus poussé son expérimentation jusqu'à rechercher une énergie 100% française, ce qui l'aurait forcé de s'éclairer à la bougie, à supposer qu'il y ait des bougies et des allumettes 100% françaises. Comme quoi, tous ces gens-là sont peut-être naïfs, mais ils ne sont pas fous. Et disons à la décharge de ce journaliste qu'il a payé un peu de sa personne, Quand un Montebourg, chantre du Made in France, est bien placé pour savoir que ses discours ne valent rien, c'est lui contenté de porter une marinière pendant 3 minutes, le temps de faire une photo. Alors oui, l'idée de produire et de consommer 100% français est une idée réactionnaire et stupide. On ne va pas installer des usines d'assemblage d'avions de partout dans le pays. On ne va pas cultiver des oranges ou des bananes ou des cacaoyers en Bretagne. Et les groupes pétroliers parviendront peut-être à leur fin en exploitant le gaz de schiste qu'ils ont trouvé dans le sous-sol français, mais ils ne trouveront pas de pétrole. La mondialisation, c'est un fait. Il n'y a plus de produits français, il n'y a pas plus de produits français que de produits allemands ou même de produits chinois. Le moindre produit nécessite l'intervention d'une myriade de métiers, de services, de travailleurs. Et l'imbrication de l'économie à l'échelle de la planète est telle qu'il est impossible de revenir en arrière sans imposer des privations sans fin et une régression effroyable. Ce sont les échanges de matières premières, de technologies, de produits, de capitaux, d'idées et d'hommes qui irriguent l'économie et qui lui permettent d'avancer. Bien sûr, cette économie avance surtout au profit d'une minorité. Et s'il y a quelque chose à changer, c'est cela. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce sont les rapports de domination, le pillage, le sous-développement et les répercussions néfastes qui en découlent sur l'environnement et la planète. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce ne sont pas les échanges, ce n'est pas la mondialisation, c'est le capitalisme. Les liens économiques, sociaux et humains qui ont été tissés au travers de cette mondialisation sont des liens précieux. Et c'est la base sur laquelle un système plus productif que jamais s'est développé. Et cela, il ne faut pas le détruire, mais il faut le maîtriser. Il faut que les travailleurs le reprennent à leur compte, de sorte qu'ils servent à l'humanité tout entière. Oui, les multinationales sous le contrôle des capitalistes ont un grand pouvoir de nuisance. Mais ces mêmes multinationales, mises au service de la population, pourraient être demain des outils fantastiques pour maîtriser notre vie économique, pour l'organiser consciemment, rationnellement, de façon à répondre aux besoins de tous, tout en économisant les ressources et en combattant la population. Aucun des grands problèmes qui se posent aujourd'hui à l'humanité, qu'il s'agisse de nourrir toute la planète, de guérir de maladies meurtrières et de pourvoir le monde entier en énergie, en transport, en logement, ne peut être résolu avec le repli national. Toutes ces questions se posent désormais à l'échelle planétaire. Et s'il revient aux travailleurs de prendre le pouvoir et d'organiser la production, ils devront le faire à l'échelle du monde. Vous l'avez donc compris, nous ne sommes pas partisans du repli national. Et cela fait bien longtemps que nous pensons que l'Union européenne devrait être un seul et même pays. Mais cette construction européenne n'a pas été faite dans cette perspective-là. Elle n'a pas été l'œuvre d'idéalistes inspirés par le désir de mettre fin aux guerres et de fonder les relations intereuropéennes sur l'amitié entre les peuples. Elle a été l'œuvre de banquiers, d'industriels, de marchands obsédés par la concurrence. Pour les bourgeois d'Europe, la construction de l'Europe a été tout à la fois une nécessité et une impossibilité. Une nécessité parce que l'industrie française ou allemande, en commençant par celle de l'acier et du charbon, ne pouvait pas se développer dans les frontières étroites des marchés nationaux. Et parce que ces deux grandes puissances économiques ne pouvaient pas espérer jouer dans la cour des États-Unis ou du Japon sans faire un grand marché européen. Mais une impossibilité aussi parce que chaque bourgeoisie voulait bien accéder au marché du voisin, tout en continuant à protéger son propre marché. Parce que chaque gouvernement voulait bien des institutions européennes, tout en gardant leurs propres prérogatives. Le résultat de cette contradiction et de tous ces compromis, c'est l'Union européenne que l'on connaît. Une espèce de mariage de raison, où chacun fait chambre à part, défend son pré carré, et où surtout, on ne met pas son compte bancaire en commun. C'est une Europe rabougrie, qui au bout de 60 ans, ne compte que 28 pays sur les 45 qui existent en Europe. C'est une Union européenne qui n'englobe toujours pas toute la moitié orientale de l'Europe. La Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, sans parler de la Turquie. Et si des voix s'élèvent aujourd'hui, ce n'est pas pour élargir l'Europe. C'est au contraire pour la rétrécir, en officialisant une Europe à deux vitesses. Que les défenseurs de l'Europe en soient à vanter le programme Erasmus et l'obligation de la ceinture de sécurité à l'arrière comme des grands acquis de l'Europe montrent qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose à se mettre sous la dent pour faire aimer leur Union européenne. Leur ultime argument, et le seul un peu conséquent, est que l'Union européenne a garanti la paix. Mais ces 20 dernières années, du Rwanda à la Yougoslavie, en passant par l'Irak, des millions de femmes et d'hommes ont péri sous les bombes ou sous les coups de machette. Des pays entiers ont été ravagés. L'enfer de la guerre est aujourd'hui le quotidien en Syrie, en Centrafrique. Mais du moment que ces messieurs dorment sur leurs deux oreilles, ils appellent cela la paix. Les dirigeants français, allemands et britanniques se vantent d'être des forces de paix parce qu'ils ne font pas s'entretuer leur propre peuple comme ils l'ont fait pendant les deux guerres mondiales. Mais ils font s'entretuer d'autres peuples dans le tiers-monde. Et se vanter d'avoir installé la paix en Europe, au moment même où l'Ukraine s'enfonce dans la guerre civile, guerre dont l'Europe partage la responsabilité avec les États-Unis et la Russie, est proprement révoltant. Quant au fait qu'en 60 ans de construction, rien n'est avancé sur le terrain des droits démocratiques et sociaux, il ne faut pas en être surpris. L'Union européenne a été conçue et créée par et pour les intérêts des groupes capitalistes. Il n'a jamais été question de créer un espace où les salaires, les droits sociaux et même les droits des femmes soient alignés vers le haut. Que les salaires roumains ou bulgares soient 5 à 10 fois inférieurs aux salaires allemands ou français, que Malte, Chypre, la Pologne ou l'Irlande continuent d'interdire l'avortement et que le gouvernement espagnol y songe sérieusement, les dirigeants européens s'en moquent complètement. Parler d'Europe sociale, c'est toujours bon pour les campagnes électorales, mais cela n'engage à rien. Même un droit aussi élémentaire que la libre circulation des personnes n'est pas complet aujourd'hui, par exemple pour les Croates. Et regardez comment les Roms sont traités. Pour les Roms, la construction de l'Europe aurait pu avoir une signification concrète. Et que fait l'Union européenne ? Eh bien, elle ne leur laisse que l'étroite possibilité d'errer de ville en ville, de pays en pays. Ce que les dirigeants politiques ont appelé la construction européenne n'est qu'une histoire de marchandage sordide où les travailleurs et les plus pauvres n'entrent pas et ne sont jamais entrés en ligne de compte. C'est une machine de guerre commerciale, un instrument d'oppression de la bourgeoisie qui s'ajoute à l'instrument d'oppression que constituent les États nationaux. Car nous ne sommes pas de ceux qui rejettent l'Europe pour vanter le repli national. Combattre l'Europe pour s'en remettre aux institutions et à la souveraineté nationale, n'est qu'une autre façon de servir la soupe à la bourgeoisie. Il est stupide d'ailleurs d'opposer la souveraineté nationale à l'Europe quand la souveraineté est dans les mains des capitalistes et qu'elle s'impose à chacun des pays comme à l'échelle du monde. Il est stupide d'opposer les responsables de Bruxelles ou d'Europe à ceux de la France. Ce sont les mêmes politiquement et souvent les mêmes tout court. Bruxelles ne prend aucune décision importante qui ne soit voulue ou du moins avalisée par les gouvernements nationaux, au premier rang desquels il y a le gouvernement français. Quant à celui-ci, il ne prend aucune décision économique de quelque importance que ce soit, sans que celle-ci ne soit elle-même avalisée par le grand patronat. Non, Merkel ne mène pas Hollande par le bout du nez. Et ce n'est pas l'égoïsme allemand qui en fait baver à toute l'Europe. Les dirigeants français et allemands sont d'accord pour faire ce que les financiers leur demandent. Ils ont été d'accord pour étrangler les travailleurs grecs ou espagnols. Ils ont été d'accord pour imposer à tous les États des politiques d'austérité. Et s'il faut faire porter la responsabilité des décisions prises par l'Europe sur quelqu'un, c'est bien sur le couple franco-allemand, les deux plus grandes puissances qui dominent la zone euro. Car c'est aussi une caractéristique de cette construction européenne que d'avoir maintenu les rapports de domination entre les pays les plus riches d'Europe et ceux les plus pauvres, comme la Grèce. Quant à l'Europe de l'Est, encore beaucoup plus pauvre, Elle n'a été que le champ clos des rivalités des multinationales françaises, allemandes et britanniques. Et c'est peu dire que les classes populaires de toute la partie orientale de l'Europe, de la Pologne à la Bulgarie, ont de quoi être déçus par cette construction européenne. De l'Europe, ils n'ont vu que les banques et les multinationales françaises ou allemandes se comporter en prédateurs. De l'Europe, ils n'ont vu que les huissiers. Ils n'ont vu que la crise, les condamnant au chômage. Et c'est en partie ce qui explique aujourd'hui la virulence plus grande de l'extrême droite dans cette partie de l'Europe. Alors oui, l'Union européenne est à l'image du capitalisme. Elle est inégalitaire, injuste, gangrénée par la spéculation et par la crise. Mais encore une fois, ce n'est pas l'Europe qui est en cause, mais le capitalisme. Et tous les démagogues qui font croire l'inverse et brandissent le nationalisme emmènent les peuples vers une impasse mortelle. L'Europe, l'Allemagne, la France, la Grèce sont des paravents derrière lesquels se cache la domination des industriels et des financiers de toutes origines. Et poser les problèmes en termes nationaux, c'est faire oublier qu'il y a des exploités et des exploiteurs dans tous les pays. N'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, l'Allemagne n'est pas un pays de nababs retraités qui vivent sur le dos des travailleurs français jeunes et productifs, comme il le laisse entendre. L'Allemagne, c'est aussi ces millions de travailleurs allemands, turcs, qui vivotent avec 700, 800 euros par mois tout en travaillant dur. Et regardez comment, après avoir accusé les Grecs, en pleine crise financière, d'avoir vécu au-dessus de leurs moyens, eh bien Valls ose dire cela de nous aujourd'hui. Alors, être sensible à ce genre d'argument nationaliste, quand il s'agit des Grecs ou des Allemands, opposer les peuples les uns aux autres et ne pas voir les responsabilités de nos propres gouvernements, c'est se condamner à subir, alors quelle que soit sa forme, à bas le nationalisme. Faire croire que l'État-nation pourrait protéger les travailleurs est une escroquerie. Croire que le repli sur les frontières nationales et le protectionnisme pourraient être d'un quelconque secours pour les travailleurs, c'est un leurre. Le protectionnisme prétendument solidaire, version Mélenchon, ou gouvernemental, version Montebourg, n'est pas meilleur que le protectionnisme xénophobe de Le Pen. Ils forment un seul et même piège. Le protectionnisme, c'est d'abord et avant tout des taxes en plus pour les consommateurs. Tout le monde se plaint des taxes et des augmentations d'impôts. Mais le protectionnisme, c'est un impôt supplémentaire sur tout ce qui est importé. Et les produits bon marché qui permettent justement aux plus pauvres de joindre les deux bouts seront renchéris avec cette histoire de protectionnisme. C'est sûr que cela ne posera pas de problème aux plus riches, mais aux familles populaires, si. Et la baisse de l'euro, voire la sortie de l'euro, aura les mêmes conséquences. Car baisser la valeur de l'euro, c'est aussi augmenter le prix de tout ce qui est importé, et en particulier celui du pétrole. Pour les travailleurs qui ont déjà du mal à faire le plein de carburant, eh bien ce sera plus difficile encore. L'objectif de toutes ces mesures protectionnistes est, nous dit-on, de remplacer les produits d'importation par des produits fabriqués en France, de façon à recréer des emplois. Mais à condition que ces messieurs les capitalistes veuillent bien investir et trouve un quelconque avantage à produire ces produits en France. Prenez le secteur du bâtiment. Il manque 1 million de logements à des prix abordables pour un salaire de travailleur. C'est un secteur qui est protégé de la concurrence internationale. C'est du tout cuit pour les Bouygues, pour les Vinci et pour les autres marchands de béton. Mais ce n'est pas assez rentable au goût de ces messieurs. Et ils préfèrent se lancer dans des partenariats publics-privés bien plus juteux, voire dans la construction de tours de 800 mètres de haut à Dubaï. Alors faire croire que le protectionnisme, via des taxes ou au travers de la baisse de l'euro, relancera automatiquement la production, l'industrie, la croissance et les emplois, c'est une fumisterie. Et croire d'ailleurs que l'on pourrait arrêter les importations tout en continuant nous-mêmes de vendre nos propres produits à l'étranger est une véritable escroquerie. Le protectionnisme, ce n'est pas la fin de la guerre commerciale, c'est son aggravation. C'est une déclaration de guerre dans la guerre. C'est plus de frontières séparant les peuples, plus d'insanité patriotique. Le protectionnisme est l'expression économique du patriotisme, justement, du nationalisme. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et faut-il rappeler que le protectionnisme des années 1930 a débouché sur la Seconde Guerre mondiale ? Alors non, le protectionnisme n'est pas la recette miracle pour que ce système tourne rond pour les exploiter. Il ne le peut pas. Les travailleurs n'ont pas à choisir à être exploités à la sauce du libre-échange ou à la sauce protectionniste. Ils ont à se battre contre l'exploitation. Le Pen est sans doute celle qui crie le plus fort contre l'Europe. À l'entendre, tout est de la faute à l'Europe, de la Commission européenne, de Bruxelles, rien du patronat. Rien de la rapacité patronale. Le grand patronat, ses bénéfices, ses dividendes, l'exploitation et les bas salaires qu'il impose, cela n'existe pas pour elle, parce qu'elle est de leur monde. Pour Le Pen, comme pour les autres, l'exploitation est dans l'ordre des choses. Elle est normale et les travailleurs sont voués à la subir. Le Pen fait de la démagogie. Elle plaint les travailleurs. Elle verse une larme sur les retraités modestes et sur les chômeurs. Mais elle se prépare à servir le système qui les écrase, comme Sarkozy et comme Hollande, avec des conséquences pires encore pour les travailleurs. Toute la politique du patronat consiste à diviser les travailleurs, à les monter les uns contre les autres. Eh bien, Le Pen fait la même chose, en opposant les travailleurs qui ont la carte d'identité française à ceux qui ne l'ont pas. Elle sème le poison de la division parmi les travailleurs. Elle accuse les travailleurs détachés des pays de l'Est de faire une concurrence déloyale aux Français. Mais en France, le plus grand contingent de travailleurs détachés, ce sont les Français salariés au Luxembourg. C'est le propre du capitalisme que de mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres, de nous mettre tous en concurrence les uns avec les autres. Les jeunes et les anciens, les diplômés et les non-diplômés, ceux qui ont le permis et la voiture et ceux qui ne l'ont pas. Le piège mortel serait de nous combattre. Alors oui, Le Pen est l'ennemi mortel des travailleurs. C'est une démagogue qui s'appuie sur la démoralisation et sur la résignation pour distiller son poison. Et la seule force qui la fera reculer, c'est celle des travailleurs en lutte. Beaucoup déplorent que face au Front National, il n'y ait pas d'unité à l'extrême gauche. Mais la force de l'extrême droite réside dans l'absence de perspective à l'opposé, c'est-à-dire dans l'absence d'un courant politique qui milite sur le terrain de la lutte de classe, dans l'absence d'un parti révolutionnaire qui rejette non seulement les politiciens qui se succèdent, mais l'ordre capitaliste lui-même. La seule façon d'enrayer l'influence du Front National dans la classe ouvrière, c'est que les travailleurs reprennent confiance dans leur force, dans leur capacité de peser, qu'ils retrouvent leur combativité. Il ne faut pas chercher une énième combinaison électorale. Il faut lever le drapeau des luttes. Et c'est une évidence que ce n'est pas la politique de Mélenchon. Toute la politique de Mélenchon consiste à ressusciter la gauche. Et avec qui ? Avec les 41 députés qui se sont abstenus lors du vote de confiance pour s'écraser ensuite lamentablement. Avec les écologistes qui ont certes quitté le gouvernement, mais qui ne sont pas dans l'opposition. Voilà le nouveau parti de gauche que Mélenchon veut construire. Une énième combinaison gouvernementale qui pourrait le hisser au pouvoir en faisant croire que cette fois, elle ferait vraiment, mais alors vraiment, une politique de gauche. Mais cela fait des décennies que les travailleurs sont baladés par ce genre de faux espoirs. Encore une fois, ce n'est pas d'un parti de gauche supplémentaire dont les travailleurs ont besoin, mais d'un parti ouvrier qui parte du point de vue et des intérêts des travailleurs. Un parti qui ne dise pas aux travailleurs « Votez pour nous et nous ferons le reste ». Un parti qui milite pour redonner confiance aux travailleurs, qui affirme que les travailleurs ont une force considérable car ils font marcher toute l'économie. Un parti ouvrier qui met en avant les seuls moyens que la classe ouvrière a de peser, les luttes et le rapport de force. Et un parti qui affirme, comme nous le faisons aujourd'hui, que tant que l'on n'a pas la force de renverser ce qui nous opprime, on est bien obligé de subir, mais les travailleurs doivent faire entendre leur camp. Alors, dans la journée qui nous reste, la nuit aussi, peut-être, eh bien, faisons le maximum pour convaincre le plus possible d'électeurs de faire entendre le camp des travailleurs dans ces élections. Le programme de lutte des travailleurs et ses perspectives d'émancipation vont de pair avec l'internationalisme. Tout se tient, c'est le même programme, c'est la même vision communiste. Dans le combat contre la bourgeoisie, toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que les travailleurs seront opposés non pas à une bourgeoisie nationale, mais à la bourgeoisie mondialisée depuis longtemps. La logique propre de son système a forcé la bourgeoisie à dépasser les frontières. Elle a étendu son système sur toute la planète et elle a de fait rapproché les peuples et uni les exploités dans un sort commun. Eh bien, il faut en faire une force. L'ouvrier français, roumain ou allemand vit la même exploitation, le même diktat patronal, la même tutelle du banquier. Et ils peuvent même avoir le même patron. Alors, moins il y a de frontières, plus les occasions de tisser des liens sont nombreuses, mieux c'est pour les travailleurs. La bourgeoisie mise sur la résignation, sur les préjugés nationalistes. Elle mise sur le fait que les travailleurs ne sauront pas réagir s'ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Eh bien, ne tombons pas dans le piège. Ayons une politique vis-à-vis des travailleurs nouveaux venus, regroupons-nous. Il ne suffit pas de dénoncer les insanités anti-immigrés du Front National. Il faut en prendre le contre-pied, non pas au nom de repliements identitaires aussi réactionnaires, mais au nom des idées, des valeurs du mouvement ouvrier. Dans un passé, il est vrai bien lointain, l'honneur du mouvement ouvrier dans les pays développés, là où il était le plus puissant, n'était pas seulement de prendre la défense des travailleurs immigrés et d'en être solidaire. C'était de les intégrer dans le mouvement ouvrier, de leur transmettre les idées révolutionnaires et d'en faire des compagnons de combat. Eh bien, encore aujourd'hui, les exploités peuvent tirer profit des migrations et du mélange des travailleurs et ils peuvent retourner la situation à leur avantage à condition d'avoir la volonté de s'unir autour d'une politique qui représente leurs intérêts de classe. Le vote lutte ouvrière permettra aux travailleurs de rejeter non seulement tous les politiciens au service de la bourgeoisie, à commencer par le gouvernement Valls-Hollande, mais de rejeter aussi l'ordre capitaliste lui-même. Il représentera sans ambiguïté les intérêts de classe des travailleurs en affirmant que ce n'est ni l'unification européenne ni l'euro que les travailleurs ont à combattre, mais la dictature des financiers. Il représentera le combat de tous les travailleurs contre toutes les oppressions, contre les restrictions à la liberté de circuler, contre la chasse aux immigrés, contre les expulsions des sans-papiers. Voter lutte ouvrière, qui se revendique du communisme, c'est prendre la position la plus radicale contre les organisations d'extrême droite qui constituent une menace pour la classe ouvrière. Voter lutte ouvrière, c'est opposer l'internationalisme à toutes les formes de démagogie nationaliste. C'est affirmer que le carcan... Voter lutte ouvrière, c'est affirmer que le carcan, ce n'est pas l'Europe, c'est la loi du profit. Le verrou qu'il faut faire sauter, c'est le pouvoir absolu de la bourgeoisie, des financiers. C'est cette dictature qui pèse sur les travailleurs, que ce soit à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Qui fera éclater ce carcan? Qui démarrera le combat? Les mineurs de Turquie? Les ouvrières du Bangladesh? Les ouvriers de Tunisie, d'Espagne, de Grèce, de France? L'avenir nous le dira. Mais pour affirmer que le prolétariat d'Europe, avec ses composantes originaires de tous les continents, constitue une seule et même classe sociale, et pour affirmer la nécessité d'une société débarrassée de l'exploitation, votez et faites voter lutte ouvrière.